Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui à mes côtés, je reçois Rémi Douard qui est cofondateur de l'agence Moonlight. Salut Rémi, comment tu vas ?
Ça va super, merci de nous recevoir Valentin, ravi d'être avec toi.
Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On commence notre collaboration avec un beau format qui est ce podcast Insight. On va parler ensemble, si tu le veux bien, a priori oui, si tu es là, de l'offre que vous avez au sein de Moonlight, de comprendre un petit peu aussi votre expertise en social media. Et on va essayer aussi de se poser la question, comment est-ce qu'une agence peut être un bon partenaire pour développer son business ? Comment on travaille avec une agence pour, en fonction de ses objectifs marketing évidemment, mais développer ses ventes, gagner en capital sympathie, développer sa notoriété. Pourquoi l'agence aujourd'hui de communication est un partenaire business ? Pour répondre à mes questions, j'imagine que tu as bien préparé le dossier. Est-ce que d'abord, tu peux me présenter Moonlight et nous dire un petit peu ce que vous proposez aux clients et aux annonceurs ?
Ouais, avec plaisir. Moonlight, nous, on se définit comme une agence de communication naturellement sociale. Alors, on pourra revenir après sur le naturellement social. En tout cas, c'est une agence que moi, j'ai cofondée en 2019 et qui compte 45 personnes en 2024. L'agence, au départ, quand on l'a créée, c'est une agence spécialisé sur les réseaux sociaux, donc avec un cœur de métier qui est vraiment le social media, et puis qui, au fur et à mesure du temps, a évolué. On n'a jamais renié nos racines, on est toujours très présent sur les réseaux sociaux, mais même dans notre manière de faire de la communication, et j'ai envie de dire même de la publicité, parce que c'est ce qu'on fait aussi maintenant chez Moonlight, prend tous nos sujets, toutes nos réflexions stratégiques et créatives par le prisme des réseaux sociaux, et donc ça donne une couleur différente, une réponse différente sur les briefs qu'on reçoit.
Est-ce que tu peux me parler un peu des différents types de clients que vous pouvez avoir aujourd'hui ?
Oui, alors on est vraiment multisectoriel. On n'a pas vraiment de secteur de prédilection et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt aussi du métier. On travaille par exemple pour le Club Med, on travaille pour SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, on travaille pour Blablacar. Donc voilà, je parle de cela parce qu'on est plutôt sur la partie travel et mobilité. On a également Système U comme client. Mmh. On va travailler avec eBay, avec du Optique 2000. Donc, c'est assez large. C'est à la fois des clients qui ont un historique énorme et des marques patrimoniales, et puis aussi certaines typologies d'acteurs qui sont un peu plus en mode startup, pure player. Donc, ça donne une bonne variété de sujets au quotidien.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux me raconter un peu l'apport que vous avez auprès de vos clients? Tu m'as parlé de social, tu m'as parlé d'influence. Tu as commencé cet épisode en parlant de votre ADN naturellement social. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ouais. Naturellement social, pour nous, ça veut dire surtout bien dans son époque, quoi. Ça veut dire que tu es une agence qui comprend le rythme de l'époque. Après, pour être plus concret, naturellement social, il y a trois manières de le voir. C'est d'abord parce que les réseaux sociaux nous inspirent. Le social media, c'est, je te l'ai dit, ce qui a fait la création de Moonlight et c'est ce qui fait encore une grande partie de notre business maintenant. Donc, on s'inspire des codes, des usages, de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. C'est aussi le naturellement social, c'est notre connaissance des rapports sociaux, ce que les gens disent, ce qu'ils ont comme intérêt. C'est vraiment le planning stratégique, quoi, de bien connaître quelles sont les motivations des gens pour pouvoir y répondre. Et j'ai envie de dire aussi pour pouvoir placer les marques en réponse aux interrogations des gens, en fait, de rendre les marques utiles, parce que c'est ce que je pense que les gens recherchent avant tout. Et puis, le dernier point sur le naturellement social, c'est une réponse aux enjeux sociétaux de maintenant. Mmh. Nos engagements RSE, notamment, on peut pas faire sans, et c'est tant mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un programme comme Good Moon, qui est notre programme RSE, qui accompagne à la fois nos clients, mais même sur l'interne, pour maîtriser nos émissions carbone et essayer d'avoir une communication un peu plus vertueuse.
Aujourd'hui, c'est le sujet de nos podcasts, c'est de comprendre comment une agence peut être partenaire business. Ça veut dire quoi déjà partenaire business ? Comment aujourd'hui vous positionnez en tant qu'agence ? On le sait, notamment en social, beaucoup plus de contenu qu'avant, pas forcément beaucoup plus de budget, un peu plus de contraintes, des algorithmes un petit peu changeants, un peu sauvages. Comment on se présente en tant que partenaire ? Est-ce qu'on a des réflexions de co-création ? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose, là, ce concept de co-création ? Est-ce que vous accompagnez vos clients avec différentes offres ? Un peu packagé, ou est-ce que c'est l'accompagnement sur mesure ? Qu'est-ce qui vous fait de Moonlight aujourd'hui, ce qu'on se dit depuis le début là, un partenaire business ?
Effectivement, le partenaire business, il est plus dans le sur mesure. on n'a jamais vraiment essayé de packager des offres, parce qu'à partir du moment où tu packages, nous, on s'enfermait un peu dans un métier, et puis le métier de la communication fait que tu évolues aussi avec tes clients. Et donc, le partenariat business, tel que nous, on le voit avec nos clients, c'est vraiment d'avoir une hyper compréhension de leurs enjeux, de leurs problématiques de communication, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi de bien comprendre leurs problématiques internes, leur mode de fonctionnement, et puis d'être un vrai partenaire aussi pour les gens avec qui on travaille au quotidien, parce que faut pas oublier que les équipes avec qui on bosse côté client, elles aussi ont des comptes à rendre, elles aussi ont des messages à faire passer, elles ont besoin de faire adhérer à leurs idées. Et donc, on est aussi un partenaire pour les aider à faire avancer ça sur l'interne. Je te donne un exemple, c'est vrai que on a des clients, tu vois, ça peut paraître du détail, mais selon qu'un client ou une marque appartienne à des actionnaires, appartienne à une fondation, appartienne encore au fondateur qui est encore le PDG, et ben tout ça nous amène à avoir à la fois une réflexion, un accompagnement qui va être différent. Parce que un fondateur qui a créé sa boîte, il a forcément aussi une vision de la communication. Donc les échanges ne vont pas être les mêmes. Alors qu'une boîte qui appartient à ses actionnaires, ils ont besoin, eux, de la faire fonctionner et ils répondent à des objectifs qui sont des objectifs de performance, de rentabilité, etc. Donc, la manière de les accompagner n'est pas du tout la même.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui sont dans le groupe, vu que vous êtes intégré au groupe Australie EGAD, est-ce qu'il y a un lien entre vos clients, ceux du groupe? Est-ce que vous êtes la brique social? Comment ça fonctionne à ce niveau groupe, dans le sens où si un client arrive par l'intermédiaire et par le prisme de l'entrée groupe, ils vont évidemment se dire que le côté social et influence, ça va être vous. Et à l'inverse, si ça arrive de votre côté, il y aura cette logique de se dire on passe d'abord par Moonlight pour une expertise et ensuite, on peut s'offrir peut-être plus de services. Donc, c'est peut-être là aussi le concept en mode partenariat business. C'est que vous arrivez avec une solution, mais que s'il y a besoin de plus, vous êtes là aussi pour accompagner sur plus,
ouais.
En tout cas avec le niveau groupe.
Ouais, au niveau du groupe, c'est une vraie complémentarité. Alors, je précise un point, c'est que la vertu du groupe, c'est d'avoir aussi une communauté d'entrepreneurs, c'est-à-dire que toutes les autres agences qui font partie du groupe Australie EGAD, généralement, il y a encore les fondateurs qui sont là, elles sont quand même autonomes dans leur développement. Donc, il y a une vraie notion entrepreneuriale. Et ça, quand tu gardes ça en tête, c'est pas la même façon non plus d'accompagner tes clients quand tu es un entrepreneur dans l'âme et qu'en face, tu as des clients. Forcément, les implications business, de développement, de performance sont toujours présentes dans nos réflexions. Donc nous, ça fonctionne de deux manières. On peut avoir des clients au niveau du groupe qui sont des clients globaux. Et nous, Moonlight, on intervient en tant qu'agence social media parce que c'est vraiment notre expertise. Et puis, à l'inverse, on a des clients aussi chez Moonlight qui sont des clients 360. Et là, effectivement, on va venir chercher les ressources dans le groupe. Je pense par exemple à des ressources de planning stratégique. Il y a une cellule qui s'appelle le Connection Planning qui fait du conseil en médias et en bonne sélection des bons canaux de communication avec des outils comme TGI, par exemple. Donc ça, c'est hyper précieux. Et puis, c'est aussi des ressources, parfois, juste parce qu'on a des clients qui ont une forte actualité, beaucoup de projets à déployer. Nous, ça nous permet aussi d'aller chercher des bonnes ressources créatives ou de gestion de projet pour pouvoir absorber ça. L'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients un accompagnement sans couture. Et finalement, si c'est piloté par Moonlight, nous, à charge à nous de s'entourer des bonnes ressources, de faire appel au groupe pour que finalement cet accompagnement soit le plus clean possible.
Sur le sujet de l'influence, il y a beaucoup d'acteurs, il y a de plus en plus de solutions, il y a des outils SaaS, il y a des agences, il y a des agents aussi qui gèrent les créateurs. Comment aujourd'hui, avec ce marché qui est en train un petit peu d'exploser avec plein de petits acteurs, qui grappille des parts de marché, comment on arrive à sortir peut-être un peu de cette posture ou de ce carcan qui peut être imposé de prestataire pour vraiment être agence conseil et ne pas uniquement se dire voici une petite sélection d'influenceurs, voilà le budget, on met en prod. Comment on arrive plutôt dans cette logique de conseil, d'accompagnement, là où les annonceurs se disent mais en fait j'ai tellement de solutions, quelle marge de manœuvre je vous laisse, à partir de quand votre conseil va avoir sa valeur fondamentale, tu vois ce que je veux dire, à partir de quand vous sortez de ce cadre là de prestataire de service à accompagnateur business pour développer et répondre à un objectif donné.
Ouais. Tu l'as répété plusieurs fois, il y a un mot qui est important, c'est le conseil. Et ça, c'est ce qui fait la vraie valeur d'une agence. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur le marché et qui sont très bien parce que parfois, tu as juste envie de faire une opération de seeding, tu as besoin d'avoir quelques influenceurs et ça ne va pas plus loin. Nous, ce qu'on cherche à faire, en tout cas chez Moonlight, c'est deux choses. C'est effectivement une fois qu'on a un brief influenceur, on le réfléchit de la même manière qu'un brief pub ou un brief strat, c'est-à-dire de trouver un angle stratégique, de trouver la bonne idée créative. Parce que l'influence, ça reste quand même la rencontre entre une marque et des communautés. Et si c'est uniquement la marque qui se raconte et qui achète des influenceurs, ça va sonner un peu faux comme discours. Mais si on laisse uniquement les influenceurs faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, la marque va être un peu oubliée là-dedans. Nous, le rôle de l'agence, c'est de trouver le point de rencontre entre la communauté, la ligne éditoriale de l'influenceur et puis ce que la marque a envie de raconter. Et généralement, quand on fait ça, on arrive à avoir une idée créative. Et c'est cette idée créative qui va permettre l'expression de la marque dans les codes et les usages de l'influenceur. Je te donne un exemple, ce qu'on a fait pour eBay dernièrement. Quand on réunit deux influenceurs pour parler des pièces détachées auto que tu peux trouver sur eBay, on a appelé ça spare car. Donc l'idée, c'était de refaire une voiture complètement avec des pièces détachées trouvées sur eBay. Ben, on a cette idée créative-là, qui est un peu un remake de Pimp My Car, qu'on a tous connu sur du MTV. On fait cette idée créative-là qui permet de fédérer des influenceurs qui sont hyper spécialisés dans le domaine auto et qui permet à eBay d'exprimer le e-commerce original qui est sa nouvelle stratégie de marque.
Aujourd'hui, lorsqu'on passe par vous, qu'est-ce qu'on vient chercher ? Tu m'as dit du conseil, tu m'as dit un ADN particulier. La structure aussi de l'agence fait que il y a une agilité, j'imagine aussi, il y a des talents qu'on va chercher. Qu'est-ce qu'on vient fondamentalement chercher lorsqu'on passe par une agence comme Moonlight pour son business? Est-ce qu'il y a quelque chose de singulier qu'on ne retrouverait pas ailleurs? Est-ce qu'il y a aussi une expertise peut-être un peu plus technique? On a parlé de conseils, donc oui, l'influence, bah, on fait une recommandation, mais en même temps, il y a aussi tout le côté prise de contact avec le créateur qui, c'est pareil, on a parlé des outils. Les outils, ils te font une liste, ils te donnent un taux moyen d'impression, il donne entre guillemets un prix à peu près classique, et après tu fais comme tu veux. Là, j'imagine qu'il y a aussi le côté prise de contact, accompagnement, co-créa, parce que de plus en plus de créateurs veulent aussi être là au moment du brief. Donc qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous là-dessus?
Ouais, alors il y a sur le métier en tant que tel et sur l'expertise, c'est vrai que nous, on n'est pas jugé parti. Donc on n'a pas d'écurie d'influenceurs à pousser plutôt qu'une autre. On essaye d'être quand même assez objectif en fait sur notre manière de proposer des dispositifs à nos clients. Donc ça, c'est notre garantie. On fait appel à, aussi à des, évidemment à des agents d'influenceurs, et heureusement qu'il y en a, mais on essaye d'être le plus objectif possible. Ça permet aussi derrière de proposer des KPIs et puis des indicateurs de performance qui sont vraiment détachés de toute relation avec les influenceurs. Donc ça, c'est le premier point. Le côté agnostique est hyper présent chez nous. Et puis, il y a aussi, je pense, autre chose, ça parlait d'agilité, de disponibilité. C'est, je pense, vraiment le cœur de ce qui fait la bonne relation entre une agence et son client. Et on en revient au sujet d'aujourd'hui, qui est le partenaire business. Parce que les clients achètent une idée, ils achètent un process, ils vont acheter un scope aussi. Et nous, on va monter une équipe qui répond à tout ça. Sauf qu'on le sait, la vie, elle est faite d'imprévus. Et donc, ces imprévus viennent souvent faire sauter parfois un peu tout ça. Je te prends un exemple, c'est on avait gagné Club Med, qui est toujours client chez nous. Là, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans. Mais on a remporté Club Med en 2020. Donc, tu vois, compète en fin 2019. On remporte Club Med de début 2020. On fait la réunion de kick-off de lancement en mars 2020, 3 semaines avant le shutdown du Covid. Et donc là, on est en réunion avec eux. Et là, ils nous disent, bon, bah voilà, en fait, on va fermer tous nos resorts partout dans le monde. Ça va bientôt arriver sur la France aussi. Vous allez voir, tout va fermer. On va rester chez nous. Et puis, va falloir attendre que ça passe. Et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Ça avait fermé en Italie. Pour ceux qui se rappellent un peu comment ça s'était passé, on disait, bon, ça va peut-être arriver en France, mais pas comme ça. Et en fait, c'était en train de nous expliquer ce qui allait se passer. Bah là, en fait, tout ce que tu as proposé dans le cadre de la reco, tout le scope, toute l'équipe que tu as mis en place pour pouvoir accompagner ce client, tout ça saute en l'air. Alors évidemment, c'est un cas de force majeure et c'est un peu extrême, mais c'est vraiment ce qui caractérise la bonne relation que peut avoir l'agence avec son client. C'est que là, c'est dit, OK, on va réorganiser complètement notre méthode de travail pour pouvoir être prêt au moment où ça va redémarrer. Et tu vois, on travaillait sur 3 plans de communication pour un même lancement dans l'année. D'habitude, tu fais un plan de com et puis tu sais qui va dérouler. Là, on avait 3 versions différentes en fonction de quand les frontières ouvraient, quand est-ce qu'elles fermaient à l'étranger, en France, etc. Et ça, c'est une vraie agilité. Et en même temps, je te parlais du côté entrepreneurial et d'être conscient du business. C'est vrai que je pense que c'est un des atouts de Moonlight. En tout cas, moi, je le vois comme ça en tant que fondateur et puis dirigeant de Moonlight. Je sais ce que c'est que de gérer un business. Et quand tu es face à une crise qui est telle ou à un imprévu, tu as surtout envie que le partenaire te dise « T'inquiète pas, on va le faire ensemble et on va avancer ensemble là-dessus ». Et évidemment, il y a des sujets de discussion budgétaire, mais on verra après, entre guillemets. Ça, c'est des choses qu'on peut revoir après. C'est ce qui construit une relation qui est saine.
Comment on garde justement aussi là cette question peut-être un peu plus perso et en tant qu'entrepreneur, hein, mais comment on garde cette distance avec le client tout en ayant cette proximité? Parce qu'en vrai, on a des clients à qui on veut faire des offres. On a des clients parce que ça se passe bien, parce que c'est régulier, parce qu'ils sont smart et que ça fit. T'as envie de faire des réductions, eux aussi, ils ont besoin de ça. Et à un moment donné, est-ce que c'est viable à long terme? Tu vois, le côté affect, relation. Par contre, les coûts ne changent pas, voire ils évoluent. Et comment on fait pour garder ce client qui avait été habitué à avoir des coûts un peu réduits parce que ça se passait bien, il y avait de la confiance? Et comment on lui dit, là, c'est plus une question d'entrepreneur, hein, mais comment on lui dit en tant qu'agence, écoute, on est trop content de bosser avec toi, c'est trop cool, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, on a toujours fait un petit peu d'efforts sur les prix, là, cette année, 2024, c'est chaud. On ne pourra plus faire cet effort-là, mais ça change rien sur la relation, mais on ne fera plus cet effort-là. Et comment on fait pour avoir ce discours-là qui est dur à tenir, hein, tu vois, on est trop content de bosser avec vous, par contre, les prix, ils vont prendre un petit peu plus. C'est dur à faire, ça.
C'est dur à faire, c'est pour ça qu'on ne laisse pas non plus les équipes le faire tout seul, quoi. Généralement, c'est là où la direction, j'interviens parce que c'est des discussions qui sont un peu tough parfois, puis qu'il faut intervenir aussi les achats. Alors, comment on leur dit? Moi, j'ai toujours été partisan d'être très transparent et d'expliquer le pourquoi de la situation. On n'est pas en train d'augmenter les prix quand on le fait, juste pour le plaisir de les augmenter. Donc, on explique pourquoi. Et ta question, elle est hyper légitime parce que cette année, avec le retour d'inflation qu'on a eu, forcément, il y a eu ce genre de discussion. Heureusement, on a des clauses comme la clause Syntec qui encadre aussi un peu la profession et qui permet de justifier ça et d'être mis dans des contrats. Après, c'est une question de négociation et de compromis. Donc, il y a toujours un juste milieu entre ce que nous, on aurait envie d'avoir et ce que le client peut aussi se permettre parce qu'il est aussi contraint. Et puis, il y a la courbe d'apprentissage. Et la courbe d'apprentissage, c'est que normalement, on est censé quand même être meilleur au bout de 3 ans de collaboration qu'au bout d'un mois, parce qu'on connaît très bien notre client, on connaît son mode de fonctionnement, on connaît ses problématiques, on connaît ses concurrents. Et ça, ça a de la valeur aussi. Donc, tout ça fait que normalement, quand tu accompagnes bien ton client, c'est des discussions qui sont plus ouvertes. Et en tout cas, le point de démarrage et le fait d'en parler ne doit pas être un point bloquant. Quand tu sais que c'est bloquant et que tu te dis, tiens, je vais aller voir mon client, mais j'y vais, je flippe parce que je ne sais pas quelle va être sa réaction, c'est que la relation n'est peut-être pas forcément très bonne.
Ouais, non, mais c'est bien aussi qu'on puisse se parler de ce genre de choses, hein, parce que c'est vrai que quand le boss de la boîte, c'est le fondateur et il est aux manettes de la direction et de la vision, bah souvent, il est aussi proche des clients et il y a un peu moins de distance qu'avec des directeurs conseils ou d'autres boîtes. Et c'est aussi ce qui fait que les annonceurs aiment bien bosser avec des boîtes comme vous aussi, cette proximité, mais qui parfois, effectivement, peut amener de la difficulté parce que les prix augmentent, mais que du coup, on ne veut pas perdre le client parce qu'il est quand même cool et qu'il fait confiance depuis le début, mais qu'il doit avoir conscience des coûts. Bref, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour sur ça en tant que boss de l'agence.
Mais c'est vrai que moi, je me mets à la place des clients quand tu as des années comme ils viennent de se passer qui sont hyper compliquées. Tu as naturellement envie de te dire je vais appeler l'agence et je vais lui demander de baisser ses coûts. Ou alors je cherche à internaliser. Tu dis, est-ce que sur des trucs un peu de going, très opérationnels, je peux le prendre chez moi? Ou tu te dis je vais faire une compète et puis peut-être que je trouverai mieux et moins cher ailleurs, quoi. Et ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ton client. C'est-à-dire que normalement, quand tu as une bonne relation, c'est des choses que tu peux sentir venir et anticiper. Maintenant, moi, je pense foncièrement que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais elle est plus verte là où on l'arrose. Et que c'est quand il y a des moments difficiles, qu'il y a des moments de crise, qu'il y a des moments où tu te sens que, en tant que marque, tu te fais un peu balloter sur ton marché, c'est le moment où il faut s'appuyer encore plus sur ton agence. Parce que, comme je te disais, c'est elle qui te connaît, c'est elle qui connaît tes concurrents. Le boulot d'agence, c'est quand même de s'immerger profondément dans les problématiques des clients. Ça prend du temps. Et ça, c'est cette fameuse courbe d'apprentissage qui fait que si tu as une bonne relation de partenariat entre l'agence et son client, En tout cas, l'agence te permettra de te relever plus vite, plus fort et de te faire des meilleures propositions que si tu essayais de complètement tout changer.
Ouais. Après, voilà, le risque aussi, il se situe côté appel d'offres, hein, parce que parfois, sous couvert de justement réduction de prix systémique, problématique, etc., on a envie de remettre en compète, alors que parfois, c'est une autre raison qui pousse les annonceurs à mettre en compète et parfois pas les bonnes. Donc, il y a peut-être aussi ce point-là. Bon, on aura peut-être le temps de faire un podcast là-dessus qui va, je pense, durer aussi un peu de temps sur les compètes et les pitchs. Mais quand tu parlais de RSE, etc., c'est évidemment intéressant d'avoir ces échanges-là, ces discussions pour être dans la transparence. Et surtout pour faire aussi en sorte que les annonceurs soient compris, soient entendus et qu'on arrive à les aider. Mais d'un autre côté également, qu'eux comprennent les problématiques d'une agence et que remettre en compète un budget tous les deux ans, parfois c'est, ou même tous les ans, hein, c'est ce qui se fait parfois maintenant, hein, c'est malheureux, mais parfois aussi c'est pas RSE. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, en tant que partenaire business, je pense que ces questions-là sont légitimes parce que c'est le but de notre épisode aujourd'hui. Partenaire business, pour les propositions de valeur, pour les prestations de services, pour les partages de connaissances, etc. Mais peut-être aussi dans cette logique-là de co-création et de collaboration dans cette logique RSE. Parce que si vous faites, vous, de votre côté, les choses bien, vous avez la charte RSE, vous avancez dans le bon sens, mais qu'un de vos clients, il met en compète tous les 6 mois ou tous les ans, bah, il n'est pas RSE, ce client-là. Mais bon.
Ah ouais. Et ça, c'est pareil, c'est des discussions qu'il faut avoir très tôt avec les clients. Nous, on les a dès le début de la collaboration ou... Moi, j'ai aucun problème à dire que la première année de collaboration avec un client, généralement, en tant qu'agence, t'es pas vraiment rentable parce que tu mets tellement d'investissement. Déjà, t'as l'investissement de la compète qui n'est pas forcément rémunéré. Et puis, t'as cette courbe d'apprentissage où t'apprends en termes d'organisation. Tu dépenses plus de temps que ce que parfois t'as vendu parce que ce que tu vends, c'est un scope idéal. Alors que le temps d'apprendre à bien se connaître, nos process, de connaître les problématiques clients, ben, ça prend un peu de temps. Donc, la première année, généralement, elle est morte. La deuxième... c'est là où tu commences à te refaire et la troisième c'est là où tu vis bien. Bon, maintenant je dis ça, je trouve que j'ai des confrères qui vont venir conquérir sa boîte. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais en tout cas c'est plutôt comme ça que ça se passe et c'est pour ça que il vaut mieux avoir une relation un peu plus long terme. Et quand c'est dit comme ça, généralement les clients le comprennent. En tout cas, ceux qui font vraiment un refus total, bon, tu sais que déjà la relation va être compliquée sur les mois qui vont arriver.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me parler un petit peu de la manière dont un nouveau client versus un client qui est là depuis longtemps, est-ce qu'il y a une manière d'accompagner qui est différente? Parce que parfois, c'est plus facile sur un des deux cas de figure. Peut-être que, je ne sais pas, hein, peut-être que le nouveau client, c'est plus facile parce que vu que tout est nouveau, il suit les rails, il découvre, ça avance, il a un peu moins de retour et que celui qui est un peu plus ancien, bah, il a plus d'exigence maintenant. Ou est-ce que c'est totalement l'inverse? Le nouveau, il est ultra exigeant parce qu'il ne connaît pas les process et les méthodes et que celui qui est là depuis 3-4 ans, bah, ça roule. Comment vous gérez ces deux types de clients? Parce que pour ceux qui nous écoutent, ça aussi, c'est important. Ça aussi fait partie des choses et des éléments de choix pour se dire « Ok, je vais bosser avec telle agence parce que je vois qu'il y a un état d'esprit sur l'onboarding du client, etc. ou sur le suivi à long terme. » Comment vous gérez ça?
Je pense que sur le métier, sur le scope, l'exigence, etc. Hein, bon, un client qui est exigeant, le premier mois, il le sera, et au bout de 4 ans, il le sera encore. Ce qui change vraiment entre un nouveau et un ancien, le nouveau, c'est la compréhension de son fonctionnement interne. C'est ça qui est très chronophage, parce que selon les clients, tu as des instances de décision qui ne sont pas du tout les mêmes, tu as des façons de fonctionner qui ne sont pas les mêmes, tu as des outils qui ne sont pas les mêmes. Parfois, tu as des outils que l'agence propose et qu'on met en place, tu vois, des outils de gestion de projet, etc. Et en fait, c'est souvent le cas où tu gagnes sur une idée créative, tu gagnes sur une stratégie, et puis après, tu vois toute l'inertie qu'il y a chez un client parce que son mode de fonctionnement. Et donc ça, c'est là où l'agence, en tant que partenaire business, c'est pas qu'elle met en place une organisation miroir, mais en tout cas, elle doit trouver sa forme, elle doit trouver son mode de fonctionnement qui va suivre le tempo du client. Parce que c'est hyper important pour que les idées passent. Mais si tu fais pas ça et si tu te campes sur ton mode d'organisation à l'agence et tu te dis, bah moi, en fait, à l'agence, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, c'est temps d'aller-retour. Et puis, c'est une fois par semaine pour ça, 2 fois par mois pour ça. Et que le client, c'est pas du tout son tempo. Le client, il va pas changer son organisation pour toi, quoi. Donc, c'est plutôt à nous de nous adapter. Alors, toujours au regard de notre métier, de notre organisation. Mais il y a quand même un moment au démarrage, un truc où, on est un peu en train de se regarder et de se dire, bon, bah voilà, il faut qu'on trouve une organisation commune qui convient à tout le monde. Et c'est plutôt à l'agence de faire un pas vers le client parce que c'est comme ça que tu, Tu sais qu'une fois que ton homologue va devoir porter le message, devoir porter ta stratégie, porter ta création, bah, il aura plus de facilité aussi à convaincre en interne. Et pour les clients qui sont des clients qu'on connaît très bien, et je pense que la problématique est la même pour toutes les agences, c'est ta capacité à te renouveler. C'est parce que c'est un peu ce qui fait aussi le piment de notre métier. Une fois que tu as défini une strat sur l'année, avec un angle créatif, sur les réseaux sociaux par exemple, tu as fait déjà ton planning édito, tes piliers, etc. Tu connais tes activations. Comment t'apportes quelque chose qui va permettre de te renouveler et puis qui va prendre en compte aussi tout ce qui arrive sur le marché. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la vie est faite que d'événements imprévus. Et donc, malgré tout le cadrage qui est fait, il faut garder cet espace de liberté en tant qu'agence pour se dire, tiens, j'ai une bonne opportunité, je la saisis. Et comment je me renouvelle vis-à-vis du client pour garder toujours un temps d'avance. Comment je garde soit ce leadership, soit ce côté challenger, mais en tout cas, en faisant quelque chose de différent de ce que fait le marché.
C'est hyper clair pour moi, Rémi. Est-ce que tu peux, pour terminer ce podcast, me dire où est-ce qu'on vous attend dans 6 mois et où est-ce qu'on doit vous attendre dans 6 ans?
Dans 6 ans, carrément. Dans 6 mois, 6 mois, c'est assez court. Et en même temps, je me dis qu'on en aura vécu des choses d'ici 6 mois parce que l'année 2024, je pense, va être pleine de surprises. Nous, ce qu'on continuera à faire chez Moonlake, c'est évidemment à solidifier notre expertise sur les réseaux sociaux, de continuer à se développer sur l'ensemble des métiers de la communication, hein, d'activation publicitaire, influence, etc. Enfin, d'être vraiment cette agence 360 avec toujours ce prisme très fort des réseaux sociaux. Il y a un levier qu'on développe beaucoup, qui est notre programme RSE, Good Moon, au sein de l'agence, ou sur lequel on a des engagements depuis la création. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est avec nos clients d'essayer d'être fidèles au maximum à ce programme RSE parce qu'on le disait tout à l'heure, quand tu as des problématiques budgétaires, quand tu as des problématiques de temps, quand tu as des problématiques internes, et ben parfois, les engagements RSE peuvent être un peu malmenés au profit de KPIs, de millions d'impressions ou de taux d'engagement. Donc, nous, c'est notre chantier aussi de se dire comment, en tant qu'agence, on arrive à valoriser l'un sans sacrifier le reste. Et ça va être le vrai sujet d'ici les 6 prochains mois, enfin en tout cas jusqu'à fin 2024. Et 6 ans, c'était ta deuxième question. D'ici 6 ans, écoute, là c'est un peu loin, mais de ce que je vois en tout cas avec les changements qui arrivent, notamment l'IA, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'IA, en tout cas, génère beaucoup de discussions, d'interrogations, d'inquiétudes, mais des opportunités aussi. Je pense que ce qu'il faut absolument faire en tant qu'agent, c'est continuer à développer le conseil et la créativité. C'est vraiment par là qu'on s'en sortira, parce que l'IA, tel que je le vois, c'est une petite c'est une espèce de révolution industrielle, comme quand tu as eu la machine-outil qui est arrivée et d'un seul coup, tu as eu le travail à la chaîne. Bon, bah, ça, c'était un premier séisme. On a eu ce séisme avec le numérique il y a 20-25 ans dans la pub et dans la communication. Maintenant, il y a l'IA qui, par la force des choses, va absorber toutes les activités un peu répétitives qu'on a dans la communication. Donc, notre salut, notre porte de sortie se fera via le conseil, via la créativité. Comment on aide nos clients à faire les bons choix, parce que les canaux de communication vont continuer à se démultiplier, mais quand tu as des budgets contraints, comment tu continues à bien choisir tes canaux de communication? Ça, c'est hyper important, et tu as besoin d'une agence pour pouvoir le faire.
Ouais, ouais.
Comment tu crées de la valeur ajoutée grâce à ça quand tu as une IA qui, ce que je te disais, va faire l'aspect répétitif? Et ben, nous, il faut qu'on puisse proposer des choses qui sont innovantes, différentes, et c'est vrai que de faire des choses différentes, c'est aussi ce qui va caractériser les agences. Est-ce que les annonceurs iront chercher? Parce que c'est comme ça que tu arrives à te différencier vraiment de la concurrence. Comment tu arrives à trouver un pas de côté qui fait que tu intéresses aussi tes clients potentiels? Donc, conseil et créativité, je pense que d'ici 6 ans, on sera encore en train de s'en parler. IA ou pas IA, ou nouvelle avancée technologique. Et puis, en même temps, c'est un peu rassurant parce que c'est quand même l'essence même d'une agence. Donc, plus il y a de changements et plus on en revient à la base.
Écoute, très bien Rémi, où est-ce qu'on retrouve vos actus? Vous êtes présent sur J'ai un pote avec la page dédiée à l'agence.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on doit suivre?
On suit notre page LinkedIn, on suit notre compte Instagram, on suit notre page J'ai un pote dans les coms évidemment, et puis notre site internet moonlake.fr.
Parfait. Écoute, Rémi, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
Merci à toi, c'est un plaisir.
Je suis ravi de t'avoir eu sur Insight. N'hésitez pas à checker les différentes campagnes et les infos de Moonlight. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est toujours bon pour le référencement. Moi, je vous dis merci à tous et on se revoit très vite pour un prochain épisode. Ciao.